Le journal de la rédaction de Radio 1 et Thiers FM. Dans cette édition, on s'envole à Hao. On s'intéresse aussi à un navire couteau suisse avant de vous parler étudiants et de fêtes silencieuses. Le journal, c'est bien sûr avec Valdemar Delage. Rebonjour Valdemar.
Rebonjour Damien, bonjour à toutes et à tous.
Ça s'active à Hao ce matin.
Oui, le 4e régiment du RSMA créé en 2022 accueille aujourd'hui le général Peloux, le grand patron du service militaire adapté. Il est accompagné par la mairesse de l'atoll et par Xavier Marotel, secrétaire général du Haut-Commissaire de Polynésie. Et ils ont procédé à la pose de la première pierre des locaux du futur régiment. Vaitiare Perer, vous êtes sur place.
Oui, Valdemar, sur le papier, il s'agit effectivement de la pose de la première pierre des futurs locaux de la compagnie, mais dans la pratique, il s'agit surtout d'un acte symbolique organisé pour la venue du commandant Peloux, chef du RSMA, arrivé hier depuis Paris. Ce matin, ils ont découvert une plaque de bois avec l'inscription « La réussite par l'effort et le travail ». Cette cérémonie vient donc lancer avec un peu d'avance le chantier qui s'étalera jusqu'à 2030 sur un terrain de 5 hectares situé Valdemar, entre le village et l'aéroport de Hao.
Mais alors concrètement, par quoi vont débuter ces travaux, Vaitiare ?
Eh bien, écoute, Valdemar, il s'agira d'un chantier primordial avec la création d'une station de traitement des eaux usées et de production d'eau potable, grâce notamment à un système de désalinisation. Les travaux devraient débuter avant la fin de l'année, Valdemar.
Merci, Vaitiare Perer, en direct donc de Hao Tuamotu. On vous tient bien évidemment au courant sur notre site radio1.pf des évolutions de ce chantier.
Des travaux aussi à FA sur la base aérienne.
Oui, le groupement d'aviation militaire qui est attenant à l'aéroport va réhabiliter un ancien dépôt de carburant fermé depuis 10 ans. D'ici 2027, il devrait donc comporter 4 réservoirs sous talus d'environ 100 mètres cubes chacun, soit une capacité doublée par rapport à la structure précédente. Cette réserve opérationnelle, qui fait l'objet d'un dossier d'enquête publique consultable à la mairie de FA, servira en cas de rupture d'approvisionnement par la Somstat qui assure jusque-là le ravitaillement des appareils militaires. Ce chantier est une première étape puisque d'autres transformations de la base aérienne ont déjà été annoncées. Cela concerne des parkings à refaire mais aussi des hangars d'accueil et de maintenance.
On prend la mer maintenant à bord d'un nouveau navire polynésien.
Oui, alors il faudra attendre un petit peu parce que ce navire reste à construire, mais ça pourrait aller vite. C'est donc en tout cas ce que voudrait Richard Bailey, le patron des hôtels Interconti, du Meitei et du Brando. L'homme d'affaires, on le sait, est déjà très engagé sur les questions environnementales, sur la recherche et le domaine maritime. Il l'a montré grâce à ses deux projets de SWAG, grâce au Blue Climate Summit de 2022 aussi, et puis au travers d'actions de la Tetiaroa Society. Et il s'agit de continuer dans cette voie, cette fois avec un navire de 25 mètres qui doit être construit dans les chantiers de NSI à la Presqu'île. Et son nom, c'est le Tere Moana. Et c'est un vrai couteau suisse des mers, Charles Irénée.
Et oui, un couteau suisse aux capacités inédites pour le Fénois. Le Tere Moana s'inspire en fait de la forme et des équipements de la dernière génération de baliseurs commandés par le service français des phares et balises. Grue, treuil, moteur puissant, pont adapté aux interventions en surface, sur des chantiers maritimes ou pour poser ou maintenir des bouées et balises en pleine mer. Mais le navire sera aussi équipé d'un portique arrière qui doit lui permettre, entre autres, de mettre à l'eau deux bathyscaphes, des petits sous-marins habités taillé pour rejoindre les abysses. 1000 mètres de fond, voilà la capacité qui devrait donner beaucoup d'options à la recherche océanographique au Fénois. Une recherche qui manque aujourd'hui d'une embarcation spécialisée. Le Tere Moana pourra aussi mettre en œuvre des ROV, ces petits robots ou drones sous-marins qui peuvent faire de l'acquisition de données ou même des interventions très spécialisées en profondeur, utiles pour intervenir sur des canalisations sous-marines, pour réparer des câbles ou bien des SWAC qu'on connaît très bien dans le groupe Pacific Beachcomber de Richard Bailey, on l'a dit. Bref, vous l'avez dit Valdemar, il s'agit d'un vrai couteau suisse des mers. Il a de quoi intéresser dans beaucoup de secteurs, la recherche bien sûr, mais aussi l'équipement, le BTP ou même les télécommunications.
Merci Charles Irénée pour les précisions techniques. Alors concernant la mise en œuvre, les promoteurs du projet multiplient ces dernières semaines les contacts avec les administrations, les centres de recherche ou les sociétés privées. L'idée c'est de trouver des partenaires et des financeurs pour ce bateau. Rien n'est signé mais ça pourrait aller très vite. Le ministère des Finances rencontré la semaine dernière paraît emballé et le groupe Pacific Beach Combeur espère voir naviguer ce Tere Moana dès la fin de l'année 2025.
En mer justement, la planète connaît un épisode massif de blanchiment des coraux.
Oui, au moins 53 pays sont concernés par cet épisode mondial. C'est le second de ces 10 dernières années. C'est ce qu'alerte la NOAA, une agence publique américaine spécialisée dans l'observation des océans, et l'ICRI, une ONG qui rassemble des spécialistes des coraux. Ce blanchissement de masse est observé depuis février 2023 dans les trois bassins océaniques qui abritent des espèces coralliennes, l'Atlantique, l'Indien et le Pacifique donc. Et la cause principale, c'est bien sûr la hausse de la température de l'eau, qui crée notamment du stress pour la zooxanthelle, une algue présente dans les coraux. Dans la région, l'Icri et la Noa relèvent que de vastes zones du Pacifique Sud sont concernées. Elles citent Fidji, le Vanuatu, Tuvalu, Kiribati et Samoa. Et selon une carte mise à jour chaque semaine par la Noa, la situation de stress est en effet très préoccupante dans le centre du Pacifique Sud, classée en alerte de niveau 3. En Polynésie, les îles de la Société et les Australes se trouvent dans une zone classée en vigilance. La situation est un peu plus inquiétante aux Marquises, classée en catégorie warning, et au Tuamotu Gambier, placée en alerte de niveau 1, voire de niveau 2 pour certaines zones.
Environnement toujours, on parle de déchets.
Et on s'intéresse à une idée, celle d'un réseau de ressourceries en Polynésie. Vous le savez, ce sont des lieux de collecte, de revalorisation, de réparation et de réutilisation d'objets usagés. Et l'idée est d'ouvrir plusieurs ressourceries dans les îles et dans les communes de Tahiti, ainsi que d'avoir une ressourcerie mère qui serait capable d'alimenter tout le réseau en matériel. Et la semaine dernière, Moea Pereira a rencontré Eliane Tevaitua, la vice-présidente, mais aussi Vanina Krolas, la ministre du Travail, et une représentante du ministère de l'Éducation pour évoquer l'idée qu'elle porte avec son association.
Il nous faudrait, pour fonctionner à minima, des ressourceries dans les archipels, puisque c'est là qu'est le besoin immédiat. Parce qu'aujourd'hui, dans les îles, quand on a quelque chose qui tombe en panne, c'est très compliqué de le faire réparer, de trouver des pièces. Et c'est surtout que tout est enterré, en fait. Tout est enterré ou brûlé. Et ça, c'est une catastrophe environnementale.
Et en plus de proposer une alternative à la poubelle, ces ressourceries sont aussi une alternative au magasin, car on peut y trouver des appareils reconditionnés moins chers ou des pièces prêtes à l'emploi. Alors il y en a déjà une à Rangiroa, mais elle ne fonctionne pas au niveau espéré. À Bora Bora, ça fonctionne grâce à une association sur place, tandis qu'à Tahiti, les communes de Mahina et Arue sont en train de travailler pour ouvrir leur propre structure. Et en plus de son idée de réseau, Moea Pereira veut aussi former des personnes.
Ça nous permettrait d'une part d'arrêter d'enfouir nos déchets, ou de les exporter. Aujourd'hui, le CET, donc le centre d'enfouissement technique de Peihoro, est quasiment plein. Quand on passe devant, on voit les montagnes de déchets. Le syndicat Fenoama estime à 10 ans la durée de vie. Ça veut dire que dans 10 ans, on va devoir chercher un autre lieu pour de nouveau enfouir nos déchets. Donc, déjà qu'on a du mal à se loger aujourd'hui, il faut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on veut laisser à nos enfants. Est-ce qu'on veut leur laisser une île de déchets ou voilà, une île tout court et pouvoir nous loger en fait.
Et aujourd'hui, 170 tonnes d'encombrants sont expédiées de Tahiti vers les filières adaptées du recyclage, ce qui coûte très cher au pays. Moea Pereira espère donc voir une partie de ce budget revenir à son projet de ressourcerie, avec à la clé la création d'emplois et la baisse de l'enfouissement des déchets. Donc, déjà, les ateliers Tataï qu'elle organise une fois par mois avec son association sur différentes communes ont permis de réduire de 5 tonnes le volume de déchets en 2023.
Les étudiants de l'école de commerce et de police 3D étaient en stage dating ce matin.
Oui, organisé par la CCISM, l'événement proposait pour la première fois de candidater pour des entreprises situées à Singapour. Un travail qui remonte à septembre 2023, lorsque la CCISM avait été convaincue par l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, alors en visite au Fénois, d'aller voir ce qu'il se passait du côté de la cité-état asiatique. C'est ce que nous explique Vatea Tofa, le directeur communication et marketing de la CCISM.
C'était une des missions export, portée par la Chambre de commerce, PAPET, mais également Nouméa. L'idée, en fait, c'était de pouvoir donc aller à la conquête de Singapour, tout simplement, en co-construisant donc l'axe Singapour-Nouméa-PAPET. En août l'année dernière, on a fait venir Jean-Pierre Raffarin, qui est aujourd'hui conseiller technique auprès de la présidence dans la zone Indo-Pacifique. Puis, Monsieur Raffarin nous a effectivement convaincus d'aller voir ce qui se passe effectivement à Singapour.
Et pour Maximilien Vincent, un étudiant en deuxième année à l'école de commerce et président du bureau des élèves de la CCISM, c'est effectivement une véritable aubaine pour les étudiants.
Il y a des opportunités qui se sont ouvertes pour les étudiants polynésiens, tout simplement, Poly 3D et ECT. On a reçu un lien en fait, de candidature directe pour la Chambre de commerce à Singapour. Les élèves ont candidaté en fonction de leur envie. Et donc on a une bonne vingtaine d'élèves qui ont envoyé leurs propositions. Ouais, c'est une réelle opportunité, une chance pour les élèves locaux de montrer ce qu'ils valent à l'étranger. Singapour, voilà, c'est quand même très grand. Puis on est en Indonésie, donc c'est assez proche. Et en même temps, ça ouvre d'autres portes aussi pour l'international, donc en Europe, aux États-Unis aussi, et surtout en Asie avec la Chine. Donc c'est un peu, on va dire, stratégique. Donc c'est pour ça que c'est une vraie aubaine, on va dire, pour les étudiants.
Et Singapour, décidément, a donc le vent en poupe auprès du pays et de la CCISM. Au-delà de cette opportunité à l'international, 24 entreprises locales étaient présentes sur ce stage dating pour proposer une quarantaine d'offres de stages aux étudiants.
Et pour terminer, Val-de-Marc, on va faire la fête, mais la fête en silence.
Avec un concept qui n'est pas nouveau, ça existe depuis pas mal d'années dans le monde, mais qui débarque à Tahiti, celui des Silent Parties. Alors ce n'est pas compliqué à traduire, cela veut dire donc la fête en silence. Et c'est la société Silence Radio qui importe ce concept. Les présentations avec Hiro Morgan Morgan, porte-parole de l'entreprise.
Le concept de silence radio consiste à la location en fait, de casques silencieuses. Ces casques qui sont utilisés pour des soirées qui permettront d'éviter les nuisances sonores directement concernant les voisins, le voisinage aux alentours, mais également pour le secteur et les professionnels concernés, donc les boîtes de nuit, la restauration, l'hôtellerie, ou encore directement des lieux culturels.
Alors comment ça marche ? Eh bien c'est simple, vous portez un casque audio, il est relié à un émetteur et cet émetteur est lui-même connecté à une source de musique, un portable, un ordinateur ou des platines par exemple. Les participants ont donc la possibilité d'ajuster le volume mais aussi de choisir la musique qu'ils veulent écouter puisque l'émetteur permet de diffuser 3 sons dans les casques. On peut donc se retrouver dans la même soirée avec des gens qui dansent sur des genres musicaux complètement différents. Vous l'avez entendu, l'idée est de permettre à tout le monde de s'amuser sans engendrer de nuisances sonores. Et en plus des particuliers, des restaurateurs ou des gérants de bars, les cours collectifs de sport peuvent utiliser le concept, mais également les religieux qui souhaiteraient diffuser la messe dans plusieurs langues. Les fondateurs l'assurent, au début les gens sont sceptiques, mais le concept plaît rapidement. Des événements pour faire découvrir ces fameux casques seront bientôt organisés. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Le prochain point avec l'actualité locale, ce sera le flash de 16h.
Merci Valdemar. On poursuit avec la météo sur Radio 1.